RFI, grand reportage. Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Grand reportage nous emmène aujourd'hui aux Antilles où le président français Emmanuel Macron doit se rendre à la fin du mois. Les Antilles, un archipel entre mer des Caraïbes, océan Atlantique et le golfe du Mexique. Un peu plus d'un an après le passage d'Irma, l'île de Saint-Martin souffre toujours des stigmates de l'ouragan. Cette île au décor paradisiaque dépendante du tourisme a été détruite à 95%. Elle a reçu près de 500 millions d'euros d'aide de l'État français pour sa reconstruction. Saint-Martin, un an après Irma, une île fragile à reconstruire. C'est un grand reportage signé à Blajounaïdi.
Une pluie torrentielle s'abat sur l'île de Saint-Martin. De quoi réveiller chez certains le souvenir de la terrible nuit où Irma a sévi. L'hôtel Mercure, propriété de la chaîne Accor, est l'un des rares grands hôtels en fonctionnement du côté français de l'île. Il donne sur un lagon couleur turquoise. Le 6 septembre 2017, le gérant Arbi Abaki et sa femme Sylvie, une ancienne hôtesse de l'air, accueillent à l'hôtel 120 personnes, y compris des gens venus se réfugier face à la marée cyclonique. Ils passent les 3 heures de la catastrophe dans la salle de bain, car très vite, les fenêtres de la chambre ont explosé sous l'effet du vent.
Ma fille et moi, on tenait la porte de la salle de bain, l'eau rentrait avec les algues en dessous de la porte, les enfants ramassaient avec les verres l'eau qui mettait dans les toilettes, et là on s'est dit... Qu'est-ce qui va nous arriver?
Mais quand on est dans la salle de bain, en fait, avant que l'eau ne rentre dans la chambre, on ne s'est pas vraiment rendu compte. C'est quand l'eau est rentrée en dessous de la porte qu'on s'est rendu compte que la baie vitrée avait explosé. Et c'est à ce moment-là que mon mari venait juste de rentrer dans la salle de bain, parce que finalement, il est resté dans la chambre devant cette baie vitrée. Et je vous dirais que ça s'est joué à peu près à 8 à 10 minutes avant que la baie vitrée n'explose, que j'ai pris mon mari, qui ne voulait pas rentrer dans la salle de bain, je l'ai pris par le collet, et je l'ai presque levé de terre, et je lui ai dit, c'est moi qui dirige, tu rentres dans la salle de bain, tu n'as rien à dire. Et j'étais obligée de vraiment de le secouer, parce qu'il était complètement nonchalant. Il ne réalisait pas vraiment ce qui arrivait.
Je ne voyais pas de danger.
Il ne voyait aucun danger.
Moi, j'aurais pu dormir dans le salon, on l'avait fait remporter par les éléments, si c'était arrivé.
Finalement, je me disais, je suis en charge de tous ces gens-là, de par le métier que j'ai fait dans ma vie pendant 30 ans.
Ce jour-là, vous étiez heureux d'avoir épousé.
Ah, oui, les petits-enfants le disent d'ailleurs. Lily nous a sauvés, ouais.
Bientôt, c'est l'hôtel qu'il faut sauver des eaux. Les travaux pour réparer les toitures arrachées et installer un mur de protection contre les vagues redémarrent assez rapidement.
Nous, sur 10 millions de travaux, nous étions assurés pour 4 millions. Donc nous, on n'a pas eu de problème avec les assurances. Ils nous ont payé vraiment, vraiment très rapidement.
Et le reste, les 6 millions, c'est quoi?
Ah, ça va être... Là, nous avons une aide du gouvernement. Ça s'appelle un agrément de fiscal. Alors, Bercy a accepté d'aider les hôtels en leur permettant de défiscaliser toute la reconstruction. Alors, si vous faites 10 millions de travaux, vous récupérez 3 millions quelques. Alors ça, plus l'assurance, plus une bonne gestion de la dépense des fonds, on devrait nous en sortir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Mais autour de l'hôtel, c'est un paysage de désolation qui s'offre aux visiteurs. Hôtels et résidences vides aux toits arrachés n'invitent pas à la rêverie. Cet hiver, seules 800 chambres seront disponibles contre 1300 avant Irma. Pascal Acanfora est un métropolitain, un métro comme on dit ici. Il vit sur l'île depuis près de 40 ans. Il tient le bistrot de la mer face au port de Marigot. La terrasse n'a pas fière allure. Des morceaux de scotch soutiennent ça et là l'installation.
Ça va, on bricole, on se débrouille. Le midi ça va, tu vois. Mais le soir on ne fait rien du tout. Il n'y a pas de tourisme parce qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas d'aéroport. Ils viennent en pèlerinage. J'avais des couples d'Américains, ça fait 30 ans qu'ils viennent là, ils étaient tout contents d'être là. Ils m'ont mangé des escargots parce que chaque fois qu'ils viennent ici, on mangeait des escargots. Pourquoi pas? Mais ils étaient tout contents. On leur a servi leur assiette avec 2 douzaines d'escargots et on ne pouvait plus. C'est comme si tu avais fait un plat de gastronomie, tu vois.
Rob, un New-Yorkais de passage à Marigot, confirme.
C'est cela qui maintient la culture, la nourriture, le vin et la conversation. C'est ce qui me manque. J'essaye de trouver des endroits comme celui-ci.
S'il a bénéficié de l'aide de l'État aux entreprises sinistrées, qui garantit la mise au chômage partiel de ses salariés et un moratoire sur les charges sociales patronales pour encore 2 mois, Pascal était mal assuré, comme beaucoup à Saint-Martin. Alors quand l'immense vague a déferlé sur le restaurant...
J'ai tout jeté la marchandise. Heureusement, j'ai mon gardien qui a des cochons. Ça a été tout cochon. Ils ont mangé des langoustes, ils ont mangé du foie gras, les cochons, ils se sont gavés. Je suis en colère parce qu'il y a des endroits qui sont peut-être mieux structurés que moi et qui encaissent des grosses sommes maintenant. Ouais, mais moi, je suis un tout petit. et il aurait fallu que je sois plus grand pour pouvoir gueuler, ma foi.
Les retards des assurances pour rembourser les quelques 40% des Saint-Martinois couverts, l'éloignement de l'île, aussi bien des autres territoires des Antilles que de la métropole, ce qu'on appelle ici la double insularité de Saint-Martin, tout cela a ralenti la reconstruction. À ce jour, 68% des dégâts assurés ont été indemnisés sur un total de 2 milliards d'euros de destruction. Pourtant, Philippe Gustin, le préfet chargé de la reconstruction, nommé juste après Irma, tire un bilan plus encourageant.
Aujourd'hui, on estime à peu près 35% des maisons qui ont été reconstruites. Je rappelle d'où on part. 95% des bâtiments qui ont été impactés par Irma. C'est une catastrophe sans précédent hein, en termes de volumétrie. Il est naturel aussi, malheureusement, qu'on ne puisse pas reconstruire toutes ces maisons en un an. Parce que construire une maison, tout simplement, ça dure normalement plus d'un an. Et reconstruire une maison endommagée à Saint-Martin, sur un territoire, pardon d'enfoncer des portes ouvertes, mais qui est une île, où tout est importé, où le réseau, en tout cas du bâtiment, n'était pas dimensionné pour faire face à une telle reconstruction, où tout est beaucoup plus compliqué, je ne veux pas me réjouir des 35% déjà de reconstruit, mais je dis qu'on a déjà fait un grand pas en avant, d'autant que ces reconstructions n'ont commencé vraiment qu'au mois de février-mars. Donc on a encore beaucoup à faire. Énormément à faire. Et il faut, là, maintenant, poursuivre sur la lancée de la reconstruction telle qu'elle a commencé au mois de février-mars dernier.
De fait, ces derniers mois, l'île est devenue un vaste chantier. Le bourdonnement des scies et des perceuses fait partie du paysage, tout comme les affiches rouges de l'entreprise locale de BTP, Deldevert. Alexandre Koenig, son directeur.
C'était moribond avant Irma. Bon, c'est sûr que là, en ce moment, il y a des travaux de partout sur l'île, que ce soit des réfections liées à Irma ou des constructions neuves qui commencent aussi à sortir un petit peu de partout. Avant le cyclone, on était une petite vingtaine de personnes avec un seul conducteur de travaux et quasiment pas de personnel au bureau. Et ça nous permettait de gérer les chantiers qu'on avait en cours à ce moment-là. Mais c'est vrai que dès que Irma est arrivée, il a fallu qu'on... Très vite, on se restructure au niveau du bureau, déjà dans un premier temps, pour avoir tout cet afflux de personnes qui sont venues travailler avec nous. Donc on s'est d'abord réorganisé au niveau du bureau, et puis ensuite on a récupéré, on a embauché un maximum de personnes, en ayant surtout embauché des personnes autour de nous qui puissent aussi former les jeunes. Et aujourd'hui, on est à plus de 100 personnes dans la société.
Le recrutement local est plus difficile puisque la plupart des gens étaient employés dans le secteur sinistré désormais de l'hôtellerie-restauration. Il a donc fallu former du personnel et recruter ailleurs pour répondre à l'urgence des chantiers. C'est comme ça que Romain, jeune charpentier de 30 ans, a débarqué à Saint-Martin.
Bon, en fait, je suis parti de chez moi en vacances en Martinique et j'ai voulu trouver du travail dans les Antilles et je me suis retrouvé ici. Il faut s'acclimater avec le soleil, parce que moi je viens du nord de la France, du coup c'est pas les mêmes degrés. Mais bon, on s'habitue, alors ça va faire 5 mois que je suis en Antilles, je me suis pas mal acclimaté.
Il va entrer aujourd'hui, le garçon va entrer aujourd'hui.
Estás contento? ¿Vendrá de escuela?
Comme la petite Aïra, 200 élèves font leur entrée à l'école Jérôme Beaupère dans le quartier pauvre et multiethnique de Sandy Ground, une école maternelle fermée toute l'année scolaire passée, car partiellement détruite par Irma.
Bonjour parents.
Bonjour.
Donc on va reprendre les bonnes habitudes de l'année dernière. La directrice vous dit bonjour et ensuite elle vous laisse entrer.
La collectivité a investi 9,5 millions d'euros pour les travaux des 18 écoles de Lille. L'État participe au financement de la reconstruction de 4 établissements. Pour nombre d'entre eux, la réhabilitation a dû attendre la fin de l'été, faute d'entreprises disponibles. Résultat, une rentrée chamboulée, notamment pour le secondaire, de quoi faire grincer les dents des enseignants et des parents déjà échaudés par une année scolaire post-Irma éprouvante. Mais ce n'est pas le seul sujet de discorde à Saint-Martin. La reconstruction des maisons est, depuis le début de l'année, soumise au contrôle d'une police de l'urbanisme mise en place par la collectivité avec le soutien de l'État. L'enjeu, sonner la fin d'une époque, de décennies de construction anarchique sur des zones exposées aux aléas du climat. En attendant qu'un plan de prévention des risques naturels renouvelé soit mis en place l'an prochain, c'est une carte des aléas qui fixe provisoirement les normes en la matière.
What's your name, please?
Andrew Smith.
Anderson?
Andrew Smith, A-N-D-R-O-U-S.
Smith Anderson.
Yeah. You build the house or you rebuild?
I build the house. Yeah. When the hurricane came, mm-hmm. it took off the top.
Okay.
I take down a piece mm-hmm. because I still live in there.
À la tête de la police de l'urbanisme, un agent détaché de la police nationale, Vincent Rodriguez. Il est venu effectuer un contrôle inopiné dans un quartier aussi pauvre que densément peuplé, Orléans.
C'est pas régularisable celle-là.
Non.
Ah non, elle est collée à l'autre.
La distance et tout ça.
C'est la distance. Pour une construction, il faut qu'il y ait 3 mètres donc, entre ce mur et la maison. Et il faut qu'il y ait aussi 6 mètres entre deux maisons.
Le policier et les équipes de l'urbanisme vont recouper les informations recueillies sur le terrain avec celles des fichiers centraux. Vérifier notamment si Anderson Smith, l'habitant de cette maison, a bien un permis de construire.
De plainte.
Que l'homme, pour l'heure, ne peut pas présenter.
With the permit now, I understand about the permit.
Oui, maintenant, j'ai compris qu'il fallait un permis de construire. Je crois que c'est clair. Il n'y a pas de choix.
Malgré la barrière de la langue, l'échange reste courtois, mais le but est bien de faire passer un message de fermeté.
Notre priorité, c'est vraiment à ce qu'il n'y ait plus de être vigilant dans les zones à risque et qu'il n'y ait plus de construction, reconstruction sauvage ou dans des maisons qui n'avaient pas de permis de construire préalable. Voilà, là, on est sur une maison qui se reconstruit, qui se construit sans permis de construire, qui a une infraction donc au code de l'urbanisme, au plan d'occupation des sols, au PPRN. Si on la laisse, s'il y a un tremblement de terre dans 3 mois et que ce monsieur vit là, si la maison s'écroule sur lui et s'il est mort, et si nous on a fermé les yeux là-dessus, ben, c'est pas bon pour nous. Et ce que là, il va être mis en demeure d'arrêter sa construction, même s'il vit là, on fait notre travail. C'est malheureux pour lui, mais on est obligé de passer par là. Et lui aussi, ça a lui à comprendre qu'il se met en danger lui aussi. J'aurais espéré qu'il ait une autre situation, mais... Dans tous les cas, on va le convoquer au service, on va l'expliquer les démarches, et puis après, les commissions techniques vont statuer sur son cas.
Pour l'heure, un simple procès-verbal sera établi. Depuis janvier, une centaine d'infractions ont été relevées. Retour à Sandy Ground, entre mer et lagon. Un homme est assis près de sa maison recouverte d'une large bâche. Le toit a été détruit par l'ouragan. Irma a emporté un énorme pan de béton à 100 mètres de là et l'a jeté contre la bâtisse. Hodge Rollin a cru bien faire en la reconstruisant entièrement. Il y a englouti toutes ses économies. Mais les services de l'urbanisme l'ont stoppé net. Il est sur une zone inondable et doit donc reconstruire sur pilotis. Sa famille, partie en métropole après Irma, il est au désespoir.
Mon fils de 17 ans ne veut pas rentrer. S'il revient, il veut voir la maison telle qu'il l'a connue. Mais là, s'il voit ça, il va se mettre à pleurer. Il sera triste pour moi. Vous savez ce que j'ai fait ? Je lui ai acheté un billet pour aller plus tôt à Los Angeles. Et je l'ai fait en pleurant, parce que je n'ai pas vu mon fils depuis un an.
Vulnérable, l'île de Saint-Martin l'est à plein d'égards. Depuis des années, la pauvreté se concentre du côté français, où afflue une population étrangère, parfois non déclarée. 10 ans après le changement de statut, la collectivité n'a toujours pas les moyens de son autonomie. Du côté hollandais, l'économie informelle prospère, tandis que le côté français se voit appliquer le droit français et européen, et sert d'amortisseur social. Une situation de déséquilibre intenable pour l'économie, comme l'est la dépendance de la partie française envers les plus grosses infrastructures, ports et aéroports internationaux, toutes situées côté hollandais. Entre les deux parties de l'île, une question gagnerait à être réglée en bonne intelligence. C'est celle des déchets. À l'écocide de Saint-Martin, le seul centre de tri de toute l'île, c'est Jean-Pierre Tay qui mène le bal. En 3 langues, français, anglais et espagnol, celles de ses employés et collaborateurs, l'homme d'affaires gère tous les déchets de la partie française. En particulier les fameux VHU, véhicules hors d'usage, qui ont afflué comme jamais ici, après l'ouragan, de dangereux projectiles en période de cyclone.
On s'est rangé par compagnie d'assurance. On a attendu pendant un moment pour avoir les autorisations de destruction. Mais avant de les détruire, les voitures, on essaye de vendre le maximum de pièces dessus. Un, la loi nous y oblige, parce qu'il faut que les mécanos puissent préparer, proposer des pièces de récup. Donc il vaut mieux qu'avant de la mettre à écraser, je vends mes deux portes, je vends le pare-brise s'il est entier, on vend des pièces. Ça génère une économie locale un petit peu plus importante. Alors là, c'est pareil, comme on ne peut pas tout faire, on travaille avec une société qui est à l'extérieur, qui vient chercher les morceaux, qui les revend. Lui, on lui fait un prix global au nombre de pièces qu'il nous prend dans le mois. Et lui, il revend après. On a explosé le nombre de voitures. On est à 2000 et quelques voitures.
Mais sur le site, enserré entre la mer et la montagne, il faut aussi enfouir les déchets non dangereux, faute de place. La meilleure solution pour Jean-Pierre Tay nécessiterait de la méthode et une volonté politique qui a toujours manqué.
On avait préparé un plan depuis 4 ou 5 ans déjà. Il en a les tiroirs. Ou par quartier, c'était de voir les conseillers de quartier, de déterminer les zones pour laisser un cyclone, les voitures, la ferraille, les voitures, vous les amenez dans ce terrain. Les arbres, les branches, vous les amenez là. Tout ce qui est mélangé, qu'on peut pas, vous le mettez là. S'il y a un problème qu'on ne peut pas, les poubelles, vous les mettez là au bord, comme ça on pourra les enlever rapidement. Mettre par catégorie de déchets, de façon à ce que ce soit des entreprises. T'as des professionnels du transport qui ont des gros camions, avec des... ils peuvent le prendre, ils l'amènent, ils savent où ils amènent. C'est fait dans l'ordre, avec méthode, comme tu dis, et comme ça on n'est pas embêté.
Du côté hollandais de l'île, pas d'écocite. À la place, un immense amas d'ordures qui brûle au soleil.
Ça a perdu beaucoup de poids.
J'ai vu les eaux,
9 mois, ça a perdu beaucoup de poids. Et c'est du problème pour le faire remonter. C'est ça qui est le problème. Mais il ne faut pas se décourager. Dans la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on a besoin. Si on n'a pas de difficulté, on n'a pas la vie.
Les temps sont difficiles pour Maximin Parotte. L'éleveur de 70 ans a l'un des plus importants cheptels de bœufs de l'île, 140 têtes. Mais il peine à les engraisser. Face à la sécheresse, endémique à Saint-Martin, il est obligé d'importer, via sa coopérative, du foin venu des îles voisines.
J'ai beaucoup de souvenirs avec mon père. On n'avait pas le temps de se dire. On n'a jamais commandé du foin ailleurs. Jamais. On allait à terre basse couper du foin. Ça, c'est le seul problème qu'on avait. Mais pour faire du foin venu d'ailleurs... jamais fait ça.
Peu de fourrage, des arbres brisés par l'ouragan et qui ne laissent plus aucune ombre pour les bêtes, le tableau n'est pas reluisant. Pour Julien Gumps, chef de projet agricole à la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Martin, les éleveurs sont victimes d'un problème de gestion.
Chaque année, on sait qu'on a les sécheresses, chaque année, on sait qu'on a une saison de pluie, chaque année, etc. Mais bon, on a du mal à mettre en place des gestions de ce qu'on a, quoi. Le problème, c'est qu'il faut gérer, pour que ça dure. En saison de pluie, donc... on a besoin effectivement de l'autorité publique, c'est-à-dire qu'il faudrait nous mettre à disposition du terrain où on peut produire du fourrage, le stocker pour qu'en période sèche on puisse l'utiliser, etc. Donc c'est pas compliqué, hein. Du foncier, bon, c'est vrai que c'est pas extensible, mais il y a encore un petit peu qui reste. Mais le problème qu'on a, c'est que tout ce qui est mécanisable est en train d'être urbanisé, et forcément, à plus ou moins long terme, ça va être problématique.
Un problème qui concerne aussi l'unique abattoir public, ouvert après des années de lutte, mais qui tourne au ralenti. Pourtant, l'agriculture est une belle promesse pour l'ensemble de l'île. Julien Gumps.
97 à 98% de ce qu'on consomme est importé. Tant qu'on n'a pas un coup de main des pouvoirs publics pour nous aider donc, à avancer un petit peu, mettre à disposition les équipements qu'il faut pour que justement l'éleveur retrouve son compte en termes de rentabilité et qu'on puisse répondre à cette demande, ben, on va encore être dans cette situation. Pour Irma, on a encore eu de la chance parce que les ports, etc. étaient praticables, les aéroports étaient un peu endommagés, mais bon, on a pu recevoir les navires. Ben imaginez demain une autre catastrophe qui fait que les infrastructures portuaires ne sont plus en état. Qu'est-ce qu'on fait? Le navire ne peut pas accoster. Comment on fait? Donc, Irma a été un révélateur d'un certain nombre de déficiences du territoire. Et bon, maintenant, il faut travailler à les corriger. Ça prendra du temps. On n'est pas là en claquant du doigt pour que ça se fasse du jour au lendemain, mais il faut prendre conscience que bon, on a un certain nombre d'atouts, il faut les mettre en valeur. Ils vont servir au territoire et servir donc au développement et à la population de Saint-Martin.
Pour beaucoup des acteurs interrogés pour ce reportage, l'île de Saint-Martin est à la croisée des chemins. L'événement majeur qu'a été l'ouragan Irma a montré au grand jour ses failles, ses nombreuses faiblesses. Mais il offre aussi une opportunité de redessiner l'île, son modèle de développement. L'État français veut y participer. Lors de sa visite sur l'île, le président Emmanuel Macron inaugurera la nouvelle cité administrative, symbole du renforcement de l'État sur une île française, certes autonome, mais encore très fragile.
Mon île, mon paradis, Saint-Martin si joli. Pourquoi tant de malheur, pourquoi tant de douleur ?
Saint-Martin, un an après Irma, une île fragile à reconstruire. Un grand reportage d'Abla Jounaïdi, réalisation Pierre Chaffanjon.
Espère te revoir sous un nouveau jour.